Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour une émission spéciale. Je suis Ada, avec ma co-animatrice Sema. Nous sommes élèves du lycée Lalande. On va vous présenter l'émission sur laquelle nous avons travaillé avec nos camarades. Elle porte sur le harcèlement de rue et le féminisme.
On a réalisé deux interviews. Nous avons rencontré Madame Bozonnet, elle est avocate et nous parle du harcèlement de rue. Et Alicia, membre du collectif féministe de Bourg-en-Bresse. Nous avons aussi écrit des textes sur le féminisme et ça m'a allée à votre rencontre.
Radio B, Radio B.
On a discuté entre nous de ce sujet. On pense que ce n'est pas parce qu'une fille ou une femme porte un vêtement qui laisse voir de la chair que ça veut dire qu'il faut l'embêter ou tenir des propos injurieux envers elle.
On est censé être libre de porter ce que l'on souhaite, mais apparemment, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Et puis même si on porte une jupe, qu'on se fait harceler ou siffler, on dirait que c'est notre faute, qu'on l'aurait cherché. Nous ne sommes pas d'accord.
Nous avions envie de savoir ce que vous, vous en pensez. Maëve, Emma, Clémence et Sema sont allées à votre rencontre et vous ont posé des questions sur le harcèlement de rue.
Qu'est-ce que le harcèlement de rue ?
C'est quand quelqu'un vient te déranger dans la rue alors que tu veux pas trop.
Harcèlement de rue, c'est une personne qui vous suit à votre insu, qui vous dit des mots déplacés. Donc voilà, c'est un peu ça.
Alors pour moi en tant que femme, c'est lorsqu'on m'agresse par des regards, des sifflets, etc. Pour moi c'est ça en tant que femme.
C'est les hommes qui parlent aux femmes dans la rue sans qu'elles le veuillent.
Le harcèlement de rue, c'est quand une personne se fait accoster alors qu'elle ne veut pas.
Alors le harcèlement de rue, c'est une atteinte verbale ou physique vis-à-vis d'une autre personne.
L'avez-vous déjà vécu ou été témoin du fait ?
Oui, il n'y a pas longtemps. J'étais à pied, il y a une voiture, un gars en voiture qui me suivait. J'étais chez mon kiné, il a attendu que je sorte de chez mon kiné pour continuer à me suivre. Et il m'a suivi de partout et il s'est approché de moi en me disant « alors ça fait du bien le kiné » et il a continué à me suivre. Voilà, donc j'ai porté plainte auprès de la police. Après j'ai su qui c'était, j'ai été le voir et je lui ai dit ce que je pensais.
Alors vécu, oui. Comme je vous l'ai dit, quand j'étais plus jeune, témoin, oui, sans doute, oui, avec mes filles. Par exemple, récemment, avec j'ai des filles qui sont des jeunes filles, on se promène dans la rue et des hommes qui s'arrêtent en voiture et qui ouvertement la draguent ou lui font des propositions assez indécentes.
Quelles sont les solutions, selon vous, pour lutter contre ce phénomène ?
Que les hommes arrêtent d'être méchants avec les femmes.
En parler ?
Expliquer aux hommes que nous sommes des personnes respectables.
Il y a d'abord l'éducation, il y a la drague, il y a l'harcèlement. Donc je pense qu'il y a deux choses différentes.
C'est aux mecs de faire attention.
Une meilleure éducation.
Il n'y a pas vraiment de solution, il faut juste que la moralité des gens change et que les personnes se rendent compte de l'impact que ça fait vis-à-vis des autres personnes.
La tenue d'une personne influence-t-elle le harcèlement ?
C'est une excuse très facile, c'est ce qui est dit, mais je ne crois pas. Parce que moi, je m'habille, je crois, normalement, et ça n'a pas empêché.
Autant que femme, non, que la femme soit habillée sexy ou pas... Faut pas qu'elle soit harcelée au moment où qu'elle montre qu'elle n'est pas d'accord, quoi. Voilà.
Alors non, je ne comprends pas pourquoi des femmes forcément avec une jupe ou quoi vont commencer à se faire insulter de tous les noms ou quoi que ce soit.
La tenue d'une personne influence-t-elle le harcèlement ?
Non. Enfin oui. Oui, mais compliqué vos questions. Oui, ça influence pour une fille. Pour un garçon, non ?
Oui, quand une fille porte des mini-jupes.
Ouais, je pense un peu. Parce que si t'es habillée plus vulgairement, on va dire, t'as l'impression que c'est une fille facile, du coup tu peux plus aller la voir.
Parce que quand il y a une meuf qui est en petite tenue, forcément, y a des gens qui aiment bien ça, du coup ça peut les exciter.
Merci de nous avoir répondu. On est en désaccord avec les dernières réponses. On ne pense pas que le fait de porter une jupe, une robe, peut justifier le fait de se faire harceler. D'ailleurs, Sema, tu l'expliques dans ton papier.
Pourquoi avoir choisi le sujet du harcèlement de rue ? J'ai décidé de parler du harcèlement de rue, car selon moi, c'est un sujet qui touche beaucoup trop de femmes au jour d'aujourd'hui. Et ça ne devrait pas. Qu'est-ce que le harcèlement de rue ? À quel moment pouvons-nous le qualifier de ce nom ? À partir d'un « et mademoiselle » ou d'un geste déplacé sur nos hanches ? Les personnes touchées par ce phénomène n'en parlent pas assez. Ou sont pas entendus. Alors j'ai voulu, à travers cette émission, dénoncer cela et permettre aux victimes de s'exprimer et aux harceleurs de se justifier. J'ai déjà été victime, mais aussi témoin des faits. Et croyez-le ou non, mais beaucoup des victimes se sentent responsables des événements. Elle pense être habillée de façon trop provocante, avec un haut peut-être un peu trop moulant, ou même une jupe un peu trop courte. Mais la mentalité doit changer, les agresseurs doivent mûrir et les victimes agir.
Vous êtes toujours sur Radio B. Merci pour ton témoignage, Sema.
J'espère que vous comprenez pourquoi il est important de parler de ce genre de choses.
Louis a fait des recherches sur les mouvements récents, MeToo ou Balance ton porc. Il nous donne son avis sur l'égalité des sexes et sur le harcèlement. This is what a feminist looks like.
This is what a feminist looks like. Tout a commencé avec l'affaire Weinstein en octobre 2017. Elle mettait en cause un producteur de cinéma américain, Harvey Weinstein. Il est qualifié de porc par des femmes avec lesquelles il a travaillé. Il serait coupable d'agression sexuelle et de harcèlement. L'affaire a résonné à travers le monde entier. En France, le hashtag Balance ton porc est né sur les réseaux sociaux. Il est utilisé pour cibler les agressions sexuelles dans les milieux professionnels ou autres. De nombreuses célébrités ont poussé un coup de gueule pendant certaines cérémonies comme les Oscars ou les Césars. Aux États-Unis, l'association féministe Time's Up a même été créée. On peut traduire son nom par « C'est fini ». Durant plusieurs mois, différentes personnalités ont révélé avoir subi des agressions sexuelles ou avoir reçu des propositions indécentes. Avant, ce sujet n'était pas forcément considéré comme sérieux. Mais aujourd'hui, il y a plus de vigilance. L'acteur Jason Momoa, révélé dans la série Game of Thrones, en a fait les frais. Il a plaisanté sur le viol de jolies femmes dans les séries. Il a dû présenter ses excuses. Ce genre de sujet n'est plus aussi tabou qu'avant. Il permet une avancée et la prise de conscience de notre société sur ce genre de situation. Le phénomène a eu des conséquences en France moins importantes qu'aux États-Unis, selon moi. Il a permis une certaine réflexion pour améliorer le statut des femmes au travail, par exemple. Au contraire, certains se demandent si parfois cette campagne de dénonciation ne va pas trop loin. Les avis sont donc divers et chacun a sa propre vision du sexisme dans notre société. Moi, je pense que cela fait avancer les choses. Mais il faut faire attention à ne pas voir le mal partout.
Merci Louis.
Pour avoir plus de précisions juridiques, on a rencontré Cathy Bozonnet. Elle est avocate. Une interview réalisée par Sarah, Daphné et Ada.
Bonjour, je m'appelle Cathy Bozonnet. Je suis avocate depuis 20 ans. J'exerce à Perona, c'est juste à côté de Bourg-en-Bresse.
C'est quoi le harcèlement de rue ?
Alors le harcèlement de rue, c'est un terme qui regroupe beaucoup de choses. On a tous plus ou moins une définition juridique ou sociale. Moi j'estime que c'est un comportement abusif qui vise à interpeller une personne dans un lieu public avec des mots pas adaptés, des attitudes pas adaptées et qui font que la personne d'abord se sent super mal à l'aise et le vit pas très bien, se sent agressée, on peut dire ça, hein, par ce comportement qui n'est pas adapté. Je préfère rester un peu général parce qu'on va voir si on affine un peu que dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qui peuvent relever du harcèlement. Je pense que la bonne expression à retenir, ce serait une conduite abusive d'une personne, hein, en tout cas que nous on ressent comme abusive du côté de la victime.
Quelles sont les différences entre la drague et le harcèlement ?
Alors, je dirais que là, on vit en France en 2018 et que les réponses seraient pas forcément les mêmes selon le pays où on habite, selon l'époque où on est. C'est à chacun de trouver sa limite. Hein. Vous êtes des jeunes filles ou des jeunes femmes, il y a des choses que vous accepterez, d'autres choses que vous n'accepterez pas. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de contact physique et je pense que les mots doivent être adaptés à la société où on vit. C'est-à-dire qu'on se dit bonjour, on ne s'insulte pas et que les jeunes femmes ne sont pas, alors je vais être un peu crue, des morceaux de viande qui se promènent dans la rue, dont on peut se servir, dont on peut tirer profit ou partie sans demander la permission. Ce qui est important, c'est l'intégrité de soi, de son corps, de sa vie, et on doit être autorisé à avoir une certaine proximité avec la personne. Il y a des formations qui sont faites en maternelle aux enfants en très bas âge. On leur apprend dès 3 ans à peu près que leur corps, c'est le leur, que personne n'a le droit de le toucher, sauf si eux donnent une permission, par exemple, pour un soin ou quelque chose comme ça. Donc on va juste se rappeler qu'on a tous été des enfants de 3 ou 4 ans à une époque, et que la limite, eh ben, c'est à nous de la mettre en place et de se dire ça va au-delà de ce que moi je peux supporter en termes de discours, de mots, de vocabulaire.
Comment réagir après de s'être fait agresser ?
Alors d'abord, ça dépend si on a subi cette agression toute seule ou tout seul, ou avec un ami ou une amie, si il y a des témoins de ce qui s'est passé ou pas. Si on est vraiment tout seul, la première chose, c'est d'en parler à quelqu'un en qui on a confiance. Alors la personne de confiance, ça peut être le grand frère, la grande sœur, les parents, un professeur, une conseillère d'orientation. Enfin vraiment, ça dépend chacun de sa situation personnelle, mais il faut en parler. Pour que quelqu'un d'extérieur arrive à comprendre ce qui s'est passé et à voir effectivement si on est dans le cadre d'un harcèlement qui peut être poursuivi par la loi ou pas. Hein. C'est important voilà, de se reconfigurer. Et après, ben, il faut réagir assez vite. Et là, ça sera lancer une procédure, déposer une plainte, par exemple. Ou si on est vraiment bouleversé, choqué, ça peut être de consulter un médecin, un psychologue pour exprimer ce qui ne va pas. Et peut-être voilà, avoir un lieu d'écoute, un espace d'écoute pour raconter ce qu'on a subi et pouvoir peut-être décortiquer ce qui s'est passé pour ne pas le revivre une autre fois et peut-être pouvoir aussi réagir. Parce que je pense qu'il est important aussi en tant que victime qu'on réagisse et qu'on ne laisse pas les choses s'enquister ou s'installer. Parce que souvent, c'est répétitif, ces comportements-là. On le voit dans les collèges, notamment, hein, où il y a des gens qui sont à peu près à partir maltraité par d'autres élèves, mais on a un peu l'impression que quand c'est facile, quand personne prend la défense, on vient toujours un petit peu sur la même personne et on reproduit souvent les mêmes faits.
En cas de harcèlement avéré, quelle est la procédure judiciaire que doit suivre la victime ?
Alors, il faut aller déposer une plainte, hein, c'est ce que le code pénal prévoit en la matière. Donc, déposer une plainte, ça veut dire se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie, selon si on habite en ville ou à la campagne. Si on est vraiment très choqué par l'événement, moi je conseille d'aller voir un médecin en priorité d'abord, quitte à passer aux urgences, dans un hôpital, pour avoir un certificat qui atteste l'état dans lequel on se trouve, l'état de choc. Parce que ça, c'est une preuve en droit, le fait d'être choqué, hein, de vraiment dans un état où on est complètement muet, estomaqué. Il y a une connotation médicale à tout ça qui est intéressante. Ensuite, c'est de faire cette plainte en essayant d'être le plus précis possible. Ça s'est passé où, dans quelle rue, à quel moment de la journée, etc. Et puis, si on était en groupe ou avec une copine ou un copain, bah, c'est que la personne vienne témoigner aussi pour donner du poids à ce qu'on va raconter. Parce que souvent, malheureusement, ça va être la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et on a un gros souci de preuve dans ces dossiers de harcèlement, de quelque nature qu'il soit, hein, parce qu'on sait, voilà, on a du mal à savoir ce qui s'est passé en l'absence de témoignage direct des faits.
Faut-il criminaliser le harcèlement de rue ? Si oui, quelles sont les peines encourues pour le harcèlement ? Pouvez-vous nous citer des articles de loi ?
Alors, en fait, on va peut-être faire un tout petit peu de droit. On a trois séries d'infractions en droit français. On a les contraventions, les délits et les crimes. Les contraventions, on va dire que ce sont les faits les moins graves. À titre d'exemple, des petites injures, une petite violence légère, par exemple, elles sont souvent punies par des peines d'amende. Alors, des textes, il y en a des dizaines et des dizaines, on ne va pas tous les évoquer aujourd'hui. On sait que c'est codifié, on sait où on peut aller les rencontrer. Ensuite, il y a les délits. Donc, les délits, c'est l'intermédiaire entre la contravention et le crime. À titre d'exemple, le délit le plus fréquent, ça va être par exemple une conduite sans permis, une conduite sous consommation de cannabis ou d'alcool, un vol, voilà, ce genre de choses sont des délits. Le harcèlement est un délit. Hein. Et puis après, il y a les choses plus graves que sont les crimes. Dans les grandes familles de crimes, on a toutes les infractions à caractère sexuel, donc les viols, les relations sexuelles imposées à des mineurs de moins de 15 ans, on va les appeler comme ça parce que dans l'actualité d'aujourd'hui, il y a une refonte qui va exister, hein, de la nature de ces faits, de comment on les traite, les meurtres, les homicides, ce qu'on appelle nous les braquages, c'est-à-dire les vols à main armée, hein, voilà ce qu'il y a dans la catégorie crime. Donc, on a deux difficultés aujourd'hui. Répertorier le harcèlement et le punir, c'est une chose, mais il faut être efficace. Je ne suis pas sûre que de le criminaliser, ce comportement, ça rende les choses efficaces, parce qu'il va falloir s'embarquer dans un long chemin judiciaire qui va faire que la personne, entre le moment où elle commet son fait et le moment où elle est jugée, va se passer plusieurs années. Donc c'est très, très inefficace à mon sens. Le fait de le rendre passible d'un délit ou d'une contravention, c'est intéressant. Après, il faut voir le contexte de l'infraction, si on a affaire à des mineurs ou des majeurs, parce que les sanctions ne sont pas les mêmes, les tribunaux ne sont pas les mêmes. Ce qui compte, c'est que l'événement ne reste pas sans conséquence. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est super important. Après, je pense qu'on a un gros travail au niveau de l'éducation en général. On va dire que c'est plus souvent des filles ou des femmes qui sont victimes quand même de harcèlement de rue que des hommes. On peut avoir quand même des garçons victimes aussi de harcèlement, mais quand même, dans la majorité, ce sont des femmes et des jeunes femmes plutôt. Souvent, ça se passe, elles sont seules, donc il n'y a pas de témoin direct de ce qui se passe. Donc, c'est encore une difficulté de prouver, voilà, que ça s'est bien passé. Ça se voit beaucoup dans les transports en commun également, hein, surtout dans les grandes villes, où là, il y a un public de témoins possibles. Donc, c'est différent et ça pourra être poursuivi. Et là, je pense qu'on doit poursuivre au minimum par une contravention, au mieux par un délit, mais c'est aussi le ressenti de la victime qui est important. Si je me mets du côté de la victime, qu'est-ce qui est important ? Que la personne paye une somme d'argent parce qu'elle a commis un acte qu'elle n'aurait pas dû commettre, ou qu'elle prenne conscience que son comportement ne va pas et qu'elle change de comportement.
Mais est-ce que ce serait pas plus dur de criminaliser un crime comme le harcèlement et de le punir s'il n'y a pas de témoin et qu'il y a seulement la victime et l'harceleur ?
Alors, ce qu'il faut comprendre dans une procédure, c'est pas parce qu'il y a une plainte qu'il y aura forcément un jugement. Que ce soit une contravention, un délit ou un crime, il y a un chemin que va faire le dossier, qui va être étudié par le procureur, qui va voir si, entre guillemets, l'infraction tient la route. Et on a la moitié des dossiers qui sont classés sans suite parce qu'on ne peut pas rapporter la preuve que les faits qu'on a subis ont existé. Non pas qu'on doute de la parole de la personne qui dépose sa plainte, mais c'est qu'on ne peut pas, de l'autre côté, si la personne ne le reconnaît pas, on ne peut pas le forcer à reconnaître quelque chose qui va le nier. Hein, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et dans ces dossiers-là, en général, c'est classé sans suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage en justice.
Et si le harceleur, il a déjà commis un crime comme celui-là, est-ce qu'il peut être jugé s'il y a une deuxième personne?
Alors, le harceleur qui aurait des antécédents d'harcèlement, on va dire ça comme ça, sans même parler de crime, puisque là, on est plutôt dans une notion très factuelle, hein, de comportement. Ça va être quelque chose qui va être positif pour la victime, parce que ce qu'elle va dénoncer, il l'a déjà commis une première fois, donc on va croire peut-être un peu plus sa parole à elle, cette victime, que la parole de l'auteur, par le fait qu'il y a déjà des antécédents, qu'on l'a déjà repéré. Après, ce que vous devez savoir, c'est qu'avec tous les nouveaux moyens de communication, il y a plein d'endroits où il y a des caméras. Tous les jeunes sont équipés de téléphones, donc on a des choses aussi du côté de la preuve qui se mettent en place, c'est qu'on a des gens qui ont des bons réflexes de filmer des fois des scènes, d'enregistrer. On a des caméras parfois dans certains quartiers qui permettent de retrouver des éléments et finalement de dire, ben, on a la preuve que ce que la personne a dénoncé, ça s'est bien passé. Mais c'est vraiment un problème de preuve à la base, et c'est pour ça que je dirais qu'il faut vraiment, quand les gens sont témoins de ces faits-là, bah, qu'ils ne se sauvent pas en courant en disant « j'ai rien vu, ça n'a rien passé », mais qu'ils accompagnent la personne dans la démarche de déposer plainte, de dire « moi j'étais là, j'ai vu, je peux témoigner que ça s'est bien passé comme ça ».
On a vu qu'il y avait le procès Weinstein qui est en cours. Est-ce que grâce à cela, ça pousse des femmes, ça les incite à dénoncer?
Alors, il y a deux choses. Quand on a l'habitude de travailler avec des gens, par exemple, quand moi je suis dans un dossier de divorce, j'ai souvent des révélations d'agressions sexuelles anciennes. De l'époque où la personne était petite ou adolescente ou jeune adulte. En général, quand on a un bouleversement dans sa vie, donc le divorce en est une variété, ça rappelle beaucoup de choses, ça fait remonter à la surface des choses. Donc ça, c'est un peu de la psychanalyse ou de la psychologie. Mais du coup, quand les gens se sentent en confiance, ils révèlent les choses. Et nous, on leur dit effectivement ce qu'ils peuvent faire ou ne plus faire en fonction de l'âge qu'ils ont quand ils nous révèlent les choses. Après, je ne suis pas sûre qu'une jeune fille ou un jeune garçon mineur ira forcément d'emblée voir un avocat pour lui dire. Je pense qu'il y a encore un cap à franchir qui est compliqué. Un adulte le fera facilement, mais un enfant moins facilement, sauf à ce qu'il soit, je dirais, soutenu par ses parents, qui l'amènent, hein, auquel cas il n'y a pas de difficulté. Je pense que le premier lieu de parole, ça ne sera pas forcément le cabinet d'avocat pour un jeune, ce sera plus le meilleur copain, la meilleure copine, ou le grand frère, la grande sœur, ou les parents, ou l'école.
Comment réagir quand on voit une personne se faire harceler?
Alors, je dirais que c'est avant tout un problème de moralité. On a chacun notre morale personnelle. Il y a des choses qu'on tolère, des choses qu'on ne tolère pas, en dehors du fait que ce soit interdit par la loi. Alors moi, je vais vous faire un exemple qui va vous montrer les choses. Imaginez, vous êtes dans un train ou dans un bus ou dans un métro, et il y a 2-3 jeunes qui commencent à embêter une jeune fille, à la toucher, à la bousculer, à lui prendre son sac, enfin vraiment avoir un comportement désagréable. La moitié du wagon va fermer les yeux, va faire comme s'il ne s'était rien passé, comme si personne n'était là et que tout allait bien. Il y a une moitié du wagon qui va commencer à réfléchir, à se dire « mais ils vont un peu loin, les jeunes, là, c'est n'importe quoi ». Et après, bah voilà, c'est un cas de conscience. Moi, personnellement, je ne laisserai pas faire. Je me lèverai en disant « ça suffit, maintenant, vous la laissez tranquille ». Si tout le monde se lève, 50 personnes, les 3 garçons, qu'est-ce qui pèse au milieu de tout ça? Rien. C'est tout un problème de prendre conscience qu'en fait, les gens eux-mêmes ont un pouvoir de police, quelque part. Réagir, c'est dire « je ne suis pas d'accord, stop », c'est même prendre son téléphone et appeler la police. Ça, c'est une forme de réaction qui est saine. Ou un adulte qui passe l'apostrophé. Ou si on se sent, parce qu'on a tous à peu près le même âge, c'est d'essayer de porter secours à la victime et de partir avec elle dans un lieu où on est en sécurité. Alors, un lieu où on est en sécurité dans une ville, c'est un magasin, par exemple. De rentrer dans un magasin, pourquoi? Parce qu'il y aura une vendeuse, il y aura une caméra, des choses qui feront que l'agresseur en restera là, voire ne rentrera même pas. Si tout le monde ne dit rien, on ne maîtrise plus, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, chacun fait ce qu'il veut, et effectivement, ça sera la loi du plus fort. Donc, on ne va pas en arriver là, parce que malheureusement, on ne mesure pas tous 2 mètres, on ne pèse pas tous 200 kilos, donc on va avoir un petit peu du mal à faire notre loi. Donc, les lois, elles sont faites aussi pour protéger les plus faibles. Donc, si nous, déjà, on a peur de faire respecter la loi, je crois qu'on ne va pas aller loin, et qu'effectivement, ça va être difficile de faire respecter tout toi, sous quelque forme elle soit. Hein, donc, c'est aussi à chacun de se dire, ça, je peux le supporter, ça, je ne peux pas. Et si on ne se sent pas physiquement le courage ou la force d'agir, on a tous un téléphone et on s'en sert. On a tous la possibilité de faire nos numéros d'urgence, même si on n'a plus de forfait.
Est-ce qu'un témoin qui n'agit pas est coupable? Si oui, peut-il être jugé?
Alors, je disais tout à l'heure que c'est un problème de conscience et de moralité. Au départ, ce n'est pas un problème d'infraction ou d'être complice. C'est de se dire, est-ce que je tolère ça? Est-ce que je ferme les yeux? Est-ce que je fais comme si je n'avais rien vu ou rien ne se serait passé? Moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas le faire. Et normalement, je pense que toute personne qui est éduquée, qui vit dans notre société, ne doit pas le tolérer ou le supporter, d'accord? Après, le fait d'être complice, c'est si jamais ça se passe mal et que ça se termine en bagarre, et que la personne, elle tombe mal et qu'elle se réceptionne mal sur un trottoir et qu'elle meurt, le fait d'être passif, ça peut être reproché. Comment on peut reprocher à une personne, par exemple, de laisser un ami partir en voiture alors qu'il a trop bu? Mais vous verrez que souvent, par expérience, Le fait de prendre la parole et de dire non ou stop, ça met dans une situation l'agresseur ou le harceleur qui fait qu'il arrête net. Et que du coup, la victime peut repartir, se mettre en sécurité, sans avoir forcément à intervenir physiquement. Hein, les mots ont du poids, c'est ce que vous devez retenir aujourd'hui. Sachez que votre non, très fort, ou votre cri a un impact immense.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne se sente autorisée à harceler une autre ?
Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Alors ça peut être le fait d'être en groupe. Le groupe, c'est quelque chose qui... C'est un peu comme les loups, vous savez, dans la nature. Les loups, un loup tout seul, c'est pas dangereux. Une meute de loups, c'est super dangereux. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est peut-être aussi pour avoir un certain standing, un certain paraître aux yeux des membres du groupe, se dire, voilà, je suis capable de... Après, il y a des gens qui ont des déviances, des troubles psychologiques ou psychiatriques. Malheureusement, ils ne sont pas toujours soignés. Donc, ceux-là, on les découvre quand ils commettent des faits. Et il y a des gens qui ont des pulsions sexuelles, il faut appeler les choses telles qu'elles se passent, et qui, eux, sont capables de commettre des choses, d'aller toucher une personne, d'être un peu insistant. On n'est pas dans la drague, on est bien au-delà, parce qu'on ne demande rien, c'est vraiment agressif. Ces gens-là, il y a un problème psychiatrique ou psychologique à la base. Et si on ne dénonce pas les faits, ils peuvent se reproduire. Et après, c'est de l'éducation, c'est-à-dire qu'on a un gros travail à faire dans les familles pour dire que les jeunes femmes, elles ont le droit de se promener librement en ville sans être agressées sous quelle forme que ce soit. Et que c'est pas parce qu'on porte une jupe, peu importe la taille de la jupe ou un short, que ça veut dire permis, blanc-seing, autorisation pour tous d'aller inquiéter cette personne, d'aller lui faire des propositions ou d'aller la toucher. C'est pas ça l'idée.
Est-ce que vous avez des solutions ou quelque chose pour faire en sorte que ça soit définitivement arrêté ou dans un futur proche, ça se produise ?
Je pense que c'est un combat tous les jours et qu'il va falloir du temps. Ça disparaîtra le jour où tout le monde déclarera que c'est interdit, que c'est mal et qu'on ne doit pas le faire. Donc il y a la connotation de l'infraction, le pénal, mais il y a tout l'aspect éducation, social, moral, ce que je permets, ce que je ne permets pas. Donc je pense que c'est à vous, les jeunes d'entre vous, d'en parler. Et de faire en sorte d'en parler à tous, de ne pas en parler qu'entre comités restreints de filles qui s'entendent bien et qui ont envie d'en parler entre elles. Ça concerne toutes les classes, tout le monde. Je pense qu'il y a l'éducation nationale qui doit sensibiliser. Dès la maternelle, on doit sensibiliser les jeunes là-dessus. C'est un travail aussi que vous aurez en tant que futurs parents à faire avec vos propres enfants.
J'ai lu un article et en Belgique, ils ont adopté une loi en 2014 qui a fait qu'il y avait plus de sanctions et le harceleur, si c'était vraiment prouvé, il pouvait avoir... de 3 mois à 1 an de prison, ainsi qu'une amende. Et du coup, en Allemagne et au Royaume-Uni, ça a été adopté aussi. Est-ce qu'en France, on verra un jour une loi de ce type arriver ou ça sera plus difficile ?
Alors, moi, je crois que le projet de loi qui va sortir, ça va déjà de définir le champ d'application. Qu'est-ce qui relève du harcèlement et qu'est-ce qui n'en relève pas ? Sachant que la frontière, on l'a vu, elle est assez fine. Ensuite, moi, je pense que la sanction, elle doit être rapide et efficace. Le passage devant le tribunal aujourd'hui, dans l'un, ça veut dire 6 mois, 1 an d'attente. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, à mon sens, ça ne l'a pas. Parce qu'entre-temps, il va recommencer. Il va à nouveau avoir des comportements inadaptés sans que personne ne dise rien. Donc, du coup, c'est un peu un blanc-seing pour « je continue, c'est rien passé ». La peine en elle-même, elle doit être dissuasive. Alors, la peine, si c'est de dire « attention, la prochaine fois, si tu recommences, ça ne va pas bien se passer », c'est-à-dire un avertissement, quel effet ça aura dans la vie de tous les jours ? La peine intéressante, elle n'est pas là. Il faut sanctionner l'auteur là où ça lui fait mal. Si les jeunes, je pense que le priver de son téléphone portable, ça serait une super bonne sanction, par exemple. L'amende, c'est pas lui qui va la payer, c'est ses parents. Donc, je suis un peu sceptique sur ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça marche. Par contre, l'obliger à un travail d'intérêt général ou à faire un travail quelconque en relation avec une association pour travailler sur le sujet, ça peut être intéressant.
Merci à Cathy Bozonnet pour son temps.
Nous l'avons entendu, le harcèlement de rue peut être pénalisé. Il est donc essentiel de sensibiliser les filles et les garçons à ce sujet.
Alan a tenté l'expérience. Il a essayé de se mettre dans la peau d'une femme pour rédiger son papier.
Pour ce témoignage, je vais me mettre dans la peau d'une femme. À Bourg-en-Bresse, dans la rue, je ne me sens pas à l'aise, sauf lorsque je suis escorté par un homme. Quand je choisis de mettre une jupe ou un short, j'évite certains quartiers. Mais de toute manière, quelle que soit notre tenue, on a le droit aux mêmes remarques. Honnêtement, ils s'attendent à quoi lorsqu'ils nous interpellent d'un « wesh, t'es bonne ». Alors je mets mon casque sur les oreilles pour ne pas les entendre, mais cela ne m'empêche pas de sentir leur regard. Je ne me suis jamais fait agresser, mais ma mère oui. Un type a profité qu'elle ait les mains prises par ses sacs de course pour lui prendre les seins à pleine main, et repartir ensuite comme si de rien n'était. Le regard, les propos et les gestes de ces hommes sont dégradants et mettent très mal à l'aise. Pourquoi ont-ils de telles réactions, si peu de self-control ? On croirait des chiens en rut. Ils nous mettent sûrement dans le même sac que toutes ces femmes objets qu'ils voient dans les films porno qu'ils regardent à longueur de journée. Ça fait peur. Dans beaucoup d'autres villes en Europe, ce n'est pas du tout comme ça. À Londres, par exemple, les femmes peuvent se balader dans la rue en mini-short sans se prendre de réflexion. En tant qu'homme, je trouve que les autres hommes, en faisant ça, donnent une mauvaise image de notre pays.
Merci à Alan.
Finalement, nous avons parlé de harcèlement de rue, mais peu de féminisme. Evan revient en quelques points sur ce mouvement.
Le féminisme, c'est un ensemble d'idées politiques, philosophiques et sociales qui cherchent à promouvoir les droits des femmes. Le féminisme, c'est un mouvement qui prône l'égalité entre hommes-femmes, aussi bien dans la vie privée que dans la vie publique. Les féministes veulent en particulier l'amélioration du statut des femmes. Elles essayent de construire des nouveaux rapports sociaux et développent des outils propres à la défense des droits des femmes. Au sens large, le féminisme inclut tout ce qui dénonce les inégalités faites aux femmes. Pour moi, il est important d'avoir des mouvements comme le féminisme qui défendent les femmes et qui essayent de diminuer les inégalités entre les hommes et les femmes.
Merci Evan.
Alicia Jaïr est militante féministe au sein du collectif féministe de Bourg-en-Bresse. Elle nous donne son point de vue sur le mouvement aujourd'hui. Une interview réalisée par Sarah et Ada.
Donc je m'appelle Alicia, j'ai 30 ans et je fais partie du collectif féministe de Bourg-en-Bresse.
Pour vous, c'est quoi le féminisme ?
Pour moi, le féminisme, c'est un mouvement qui revendique l'égalité entre les sexes, entre les femmes et les hommes, voire entre les genres, selon la mouvance dans laquelle on se situe. Et puis je pense que ce qu'il faut peut-être préciser par rapport aux hommes qui seraient un petit peu, voire aux femmes aussi, qui seraient un petit peu réfractaires, c'est que ce n'est pas un mouvement qui se veut dominant par rapport aux hommes.
D'après le dictionnaire Larousse, le féminisme est un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Que pensez-vous de cette définition ?
Je pense qu'elle rejoint bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est vraiment pas de la domination, mais vraiment une question d'égalité. Et ce, dans tous les domaines, en fait, que ce soit le domaine sociétal, le domaine politique, le domaine professionnel, le domaine personnel aussi, c'est-à-dire que ce qui se passe aussi au sein de la maison, c'est aussi politique en fait, ça a un sens aussi au niveau politique.
Si vous devriez nommer différemment le féminisme, comment l'appelleriez-vous ?
Certaines personnes parlent d'humanisme, parce que en fait, à terme, l'idée ce serait peut-être de se considérer tous comme des humains et on est tous égaux, donc voilà.
Au départ, le féminisme était un mouvement qui voulait que les femmes aient une place ailleurs qu'à la maison. Elles demandaient à travailler. Aujourd'hui, ce but est atteint. Quel est le rôle du féminisme au XXIe siècle ?
De toute façon, de tout temps, les femmes ont travaillé. C'est juste que maintenant, elles sont reconnues dans le salariat. Après, de quelle manière ? Il y a toujours ces questions des temps partiels qui sont le plus souvent assurés par des femmes. La question des inégalités de rémunération. Donc certes, elles travaillent, elles sont salariées, elles sont rémunérées pour ce travail. Mais de quelle manière ? Comment ? Dans quelles conditions ? Etc. Souvent dans une plus grande précarité que les hommes. Il y en a en revanche qui restent quand même à la maison parce que après le premier enfant, par exemple, c'est souvent la femme dans un couple hétérosexuel qui prend son congé maternité. Donc cette question reste quand même pas tout à fait résolue selon moi. Après, quel est le rôle du féminisme aujourd'hui ? Il y a énormément de domaines dans lesquels on peut agir. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu l'idée d'une nouvelle révolution sexuelle, parce qu'on dit que dans les années 70, il y a eu une révolution sexuelle. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut en faire encore une nouvelle, parce que les corps des femmes ne sont encore pas libérés. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, et en ce moment, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent avec le corps des femmes, que ce soit en termes de harcèlement de rue, parce que là, il est question également du corps des femmes, mais aussi en termes de, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le clitoris, on en entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux, etc., dans les médias, parce qu'on le redécouvre seulement depuis quelques années, et là, depuis quelques semaines, encore plus. Donc voilà, il y a vraiment du travail à faire là-dessus, à mon avis.
Comment concilier le féminisme et la féminité ?
Après, le concept de féminité, je pense qu'il est assez subjectif selon chaque personne. On peut très bien être féminine et féministe. La féminité, ce serait du coup plutôt, dans ce que moi j'en vois, une question d'attitude, une question de, pourquoi pas, une question vestimentaire. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir parce que le féminisme, c'est un combat social et politique. Donc, on peut très bien concilier, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, qu'on peut très bien porter une jupe, porter des talons et revendiquer malgré tout l'égalité.
À ce propos, on entend beaucoup parler du féminisme et des Miss. Peut-on être une Miss France féministe ?
Moi, j'ai un peu une pensée là-dessus, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément hyper cohérente, mais c'est que quelque part, une femme qui me dit « bah moi, c'est ma liberté d'exposer mon corps comme ça, de jouer sur mon image, c'est ma liberté en tant que femme, donc je revendique ce droit-là, donc en soi, ça, c'est féministe aussi. Et j'ai le droit d'être féministe. » Ok. Sauf quand même que ce que tu fais, malgré tout, ça renvoie une certaine image, notamment aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qui est que la femme, elle est là pour montrer son corps. On fait surtout attention à son corps, on fait attention à son image. Il faut qu'elle a un corps aussi qui est très très uniformisé, enfin très elles ont des corps très stéréotypés en fait. Hein. Si il y avait encore une diversité de représentation des corps, bon pourquoi pas, mais là pour le coup c'est vraiment pas le cas. Donc du coup c'est quand même vraiment cette question de l'image qui peut être néfaste pour les femmes et qui du coup est portée quand même par Miss France. Donc en soi oui c'est un droit qu'elle peut revendiquer, mais attention à ce que ça peut donner aussi. Sur l'image.
Et les hommes, quelle est leur place entre l'égalité entre les femmes et les hommes ?
Alors ça, la fameuse question de est-ce que les hommes peuvent être féministes ? Moi, à l'heure actuelle, ce que je me dis, c'est que ça reste quand même un combat de femmes parce qu'il est important de ne pas déposséder les opprimés de leur combat. C'est important que ce soit les personnes oppressées qui soient un peu au cœur du combat. En revanche, quand ces personnes n'ont pas les moyens, la capacité de le faire, les autres personnes peuvent prendre le relais ou les aider. Et c'est là que les hommes ont vraiment ce rôle-là, c'est qu'ils peuvent être pro-féministes, en fait. Peut-être pas féministes, parce que du coup, c'est quand même jouer sur les mots, hein, entre féministes et pro-féministes. Voilà, mais ça peut être des personnes qui peuvent rejoindre le combat, qui peuvent nous appuyer, parce qu'eux aussi, il y a plein d'hommes, il y a énormément d'hommes qui croient en cette égalité entre les femmes, les hommes, les sexes, les genres. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Et il y a d'ailleurs des femmes qui croient beaucoup moins à ça que les hommes.
Quelle différence entre un homme et une femme féministe ?
Bah, la simple différence, je pense que c'est que, a priori, l'homme ne vit pas les problématiques des femmes. L'homme ne va pas vivre le harcèlement de rue, l'homme ne va pas vivre la charge mentale, pour la plupart, hein, je veux pas généraliser. Donc quand on n'a pas connu ça, c'est compliqué de vraiment se mettre à la place d'eux. On peut faire tous les efforts du monde, tant qu'on l'a pas ressenti, c'est compliqué.
Pensez-vous que grâce aux mouvements comme MeToo ou Balance ton port, des choses ont évolué au sein de notre société ?
Pour l'instant, ça n'a pas évolué de manière institutionnelle, etc. Par contre, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que j'ai l'impression qu'on parle d'une nouvelle vague féministe, parce que c'est un mouvement qui est partie des réseaux sociaux, du coup qui touche a priori plus de jeunes. Et ça, c'est vraiment chouette parce que le féminisme va peut-être avoir un nouvel élan auprès d'une nouvelle génération. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, il y a également le fait qu'on est investi, que les femmes aient investi un espace pour pouvoir prendre la parole. Alors après, voilà, il y a tous les arguments de c'est de la délation, etc. Et en même temps, j'ai envie de dire, si on en arrive là aussi, c'est qu'il y a un travail qui n'a pas été fait avant.
Que pensez-vous du slut-shaming et comment le définiriez-vous ?
C'est sur Internet, c'est ça, c'est le fait de donner une réputation à une jeune fille, c'est ça qui.
Ouais, de montrer du doigt une personne qui s'habille. Qui montre un peu trop de parties de son corps ou qui a juste une attitude.
Bah, ce que j'en pense, évidemment, c'est que c'est toujours la même question du corps des femmes, en fait, hein, qui est un réel enjeu et qu'on veut soit couvrir, soit découvrir. En fait, ça va juste jamais. C'est soit elle est trop découverte, soit elle est trop couverte. Donc, en fait, tout simplement, la question là, c'est que les femmes
doivent pouvoir se réapproprier leur corps, en faire ce qu'elles veulent, sans que qu'on les juge là-dessus. Et ce jugement se fait à la fois par des hommes, mais à la fois par des femmes. Et c'est en ça que le système de domination est assez pervers, en fait.
Merci à Alicia Jaïr pour son temps et ses réponses. Elles nous permettent de mieux connaître le féminisme.
C'est la fin de notre émission sur le féminisme et le harcèlement de rue. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cette émission vous aura permis de comprendre un problème actuel dans notre société.
Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas notre mot à dire. Merci à tous les participants de notre émission.
On se quitte en chanson avec Juliette et le titre « Une petite robe noire ».
Une petite robe noire, légère, toute simple et sans manière, dansait à l'écart au fond du placard. N'avait autour d'elle que des gilets de flanelle, des chemises d'homme et des pantalons tout comme. Elle était hélas si peu à sa place, perdue par hasard entre deux costards, une anomalie pourtant si jolie, suspendue fragile dans ce drôle d'exil. Faut dire que ça plaît aux filles, les petites robes qu'un rien déshabille, petits bouts de tissu sans quoi elles iraient nues. Petit rêve où s'égare la main ou le regard, petite robe noire toute simple et sans phare, petite plume volée aux parures étranges des anges. Racontait sa belle histoire, ses heures de grâce au printemps qui passe. Quand le cachemire, le blouson de cuir, rassurants et forts, ne la blessait pas encore. Quand une caresse la faisait princesse, quand elle allait libre de toutes ses fibres, avant le passage des premiers orages, avant qu'on ne la cloue de reproches flous, jaloux. Faut dire ce que ça coûte aux filles, les petites robes qu'un rien déshabille, petits bouts de tissu sans quoi elles iraient nues. Petit rêve où s'égare la main ou le regard, petite robe noire toute simple et sans phare, petite plume tombée en souvenir étrange d'un an. Petite robe sage s'abîmait sous les outrages, avilie de cris, salie de mépris. Elle savait les coups, les marques au cou, les larmes qui brillent au coin des yeux qu'on maquille. Un soir de misère, d'enfer ordinaire, de vagues ruptures, de coups de ceinture, on l'avait griffée, déchirée, froissée, et puis peu importe, laissée de la sorte.